Chapitre 15e. Un matin, en me réveillant, j'eus soudain le sentiment que tous les efforts que je faisais depuis un an ne concouraient pas à assurer ma tranquillité, et que dans l'hôtel borgne où je vivais, j'en étais exactement au même point qu'en arrivant à Paris. Je me rappelais tous mes changements, toutes mes allées venues, toutes mes peines, toutes mes anxiétés. Tant de mal n'avait donc servi à rien, alors qu'un autre, peut-être avec beaucoup moins de soucis, se fût trouvé aujourd'hui complètement à l'abri. Au lieu de se défendre contre des dangers imaginaires, de chercher un logement toujours plus sûr, il eut tout simplement, dans le premier endroit choisi par lui, gagné la confiance de tous, il se fût fait de nouveaux amis, il se fût fait aimer. Je compris que je commettais toujours la même faute, celle de vouloir trouver les choses toutes faites. Au fond, je n'avais pas su m'adapter aux circonstances. J'en étais encore, après un an, à ne pas oser ouvrir une fenêtre, à me méfier d'un concierge, à m'assurer qu'il n'y eût pas dans mon entourage des gens qui fussent de la police. Puisque, d'une part, on me recherchait et que, de l'autre, mon but était d'être heureux, j'aurais dû trouver le moyen de concilier ces deux réalités comme l'avait si bien fait Roger. Car en changeant sans cesse, j'avais peut-être eu plus d'occasion que n'importe qui d'organiser ma vie, et maintenant qu'elles étaient perdues, il me semblait que si j'avais su en saisir une seule, je serais en paix. Puis il m'apparut soudain que les dangers sont imprévisibles. Nous nous imaginons n'en courir aucun et tout à coup le malheur fond sur nous. Rien n'était plus facile à prévoir et nous n'y avions pas pensé. Je passais donc mon temps à me demander ce qui allait bien pouvoir m'arriver, sans me rendre compte qu'à force de m'interroger ainsi, je finissais par créer dans mon esprit une certaine confusion qui, justement, m'empêchait de voir ce danger éventuel. Il y avait 3 semaines que j'avais quitté Versailles, lorsqu'il m'apparut que j'avais oublié, depuis mon évasion, de tenir compte d'un fait de la plus haute importance, savoir que mon père, ne recevant plus de nouvelles de moi d'Allemagne, eût dû normalement se renseigner. En ne le faisant pas, il avouait aux Allemands qu'il était tranquille à mon sujet, qu'il savait donc où je me trouvais. De là, à l'obliger à me dénoncer, il n'y avait qu'un pas. Évidemment, mon père aurait tenu jusqu'au bout, mais comme la plupart des gens qui n'ont pas une excellente santé, il eût pu aussi être victime d'une défaillance. On ne peut pas prévoir comment les gens réagissent dans les grandes circonstances. Les plus lâches sont quelquefois les plus courageux. J'aimais mieux ne pas en venir là. Je dis à mon père mes craintes, et ce fut à ce moment que cette obsession du danger dont je viens de parler en fit naître un véritable. Dans mon énervement, je demandai à mon père d'aller voir les Allemands pour leur dire qu'il était inquiet d'être sans nouvelles de moi. Heureusement, il n'en fit rien. Il se fâcha, il me trouvait complètement ridicule. « Débrouille-toi tout seul, » me dit-il enfin. Mon père avait continuellement des remords. Quelques jours plus tard, il vint me voir. Comme quand il n'était pas sûr d'avoir fait ce qu'il devait, il m'annonça tout de suite qu'il avait très bien travaillé pour moi, qu'il avait même eu de la chance dans ses démarches, que les circonstances l'avaient favorisé. Je crus qu'il faisait allusion à Boisboissel. Pas du tout. Il s'agissait de Mondanel. Il n'avait pas eu besoin d'aller le voir. Il l'avait rencontré par hasard. De cette façon, il avait pu parler de moi plus librement. Il avait pu lui demander de s'occuper de moi sans paraître y avoir pensé avant. Il avait pu raconter l'histoire des sentinelles blessées. « Ah, pourquoi ne m'avez-vous pas dit ça plus tôt ?» s'était écrié Mondanel. Mon visage se couvrit de sueur. Mon père me dit que j'avais tort de m'émouvoir, que je n'avais rien à craindre, qu'il répondait de Mondanel comme de lui-même. Ce dernier m'attendait. Il voulait me voir. Il s'intéressait à moi. Je rappelai à mon père que je lui avais bien recommandé de ne jamais donner de détails à personne de ce qui s'était passé. Il me répondit que dans ce cas particulier, je ne craignais absolument rien, que Mondanel était son ami. Mon père ne pouvait plus supporter de me voir vivre dans cette anxiété. Le lendemain, nous allâmes déjeuner chez Mondanel. Celui-ci n'était pas le moins du monde gêné vis-à-vis de moi de savoir ce que je ne lui avais pas dit. Dès le début, il tint à me montrer par des marques de gentillesse, pour éviter tout malentendu sans doute, et pour me persuader que les révélations faites à mon sujet en dehors de moi, n'avait pas causé sur lui mauvaise impression. Je pouvais être tranquille. Il admettait parfaitement que je n'eusse pas parlé moi-même, que mon père eût été obligé de le faire à ma place. Sentant quel désarroi me causait l'indiscrétion de mon père, il ajouta que je ne devais pas dramatiser tellement les choses, que je pouvais avoir confiance en lui, qu'il comprenait très bien ma prudence et que maintenant qu'il savait tout, il renonçait officiellement à paraître ne pas savoir, il n'en avait que plus d'estime pour moi. Il me fournit, comme si c'était ce que j'attendais de lui, sans oser le lui dire, de se renseigner habilement dans les différents services de la préfecture et même de la police judiciaire. Je n'avais pas osé le lui demander, mais il se doutait que c'était mon désir. Il allait interroger directement ceux qui, par leur fonction, étaient peut-être au courant de quelque chose. Enfin, je pouvais me dire que j'avais un ami dans la place et que tout ce qui pouvait être fait serait fait. Dès que je fus seul avec mon père, je ne pus cacher davantage ma frayeur. Tout le temps qu'avait duré le repas, mes nerfs avaient été tellement tendus que, sans m'en apercevoir, j'avais gardé la tête tournée vers mon Danel, si bien qu'à présent je ressentais dans le cou une légère douleur de muscles froissés, comme si j'avais dormi dans une mauvaise position. Mon père s'étonna de ma méfiance. Il me répéta que mon Danel m'avait vu naître, qu'il était un ami de toujours, qu'il ferait pour moi plus encore qu'il n'avait dit. Il avait horreur des vaines promesses. C'est pourquoi il avait été si réservé. Mais je pouvais compter sur lui. Mon inquiétude s'accrut encore. Je craignais maintenant qu'au cours de ses démarches en ma faveur, mon Danel ne cachât pas qu'il me connaissait, qu'au lieu de se renseigner sans en avoir l'air, et pour intéresser les gens plus facilement, il ne dit qu'il s'agissait du fils d'un de ses amis. Tout le monde plaindrait mon sort. Avec le temps, mon histoire deviendrait de moins en moins secrète. Si bien qu'un beau jour, malgré la bienveillance et la compassion de tous, à la suite de je ne sais quelle indiscrétion, maladresse, trahison, jalousie, deux inspecteurs viendraient tout simplement m'arrêter. À ce moment, je ne m'en doutais pas, ils se lamenteraient tous, ils jureraient qu'ils n'avaient pas voulu cela, ils raconteraient avec d'innombrables détails comment l'événement s'était produit, ils s'emploieraient à réparer le mal dont ils étaient les artisans involontaires, ils feraient tout ce qu'il est humainement possible pour me tirer de l'ornière où il m'avait mis, mais en attendant, je serais bel et bien en prison. Il apparaîtrait alors qu'aucun d'entre eux n'était responsable. Un concours malheureux de circonstances était la cause de cet accident. Ils avaient pourtant pris toutes les précautions imaginables. Ils n'avaient rien négligé. Et le plus fort serait que ma triste aventure allait, dans une certaine mesure, servir à quelque chose. Elle permettrait de découvrir celui qui était à l'origine de mes malheurs. Ils allaient pouvoir le tenir à l'œil maintenant. À la première occasion, ils ne le manqueraient pas. Grâce à moi, ils avaient la preuve qu'un traître se trouvait parmi eux, et le sachant, ils ne tarderaient pas à le démasquer. Et plus fort encore que tout cela, mon père ne leur en tiendrait même pas rigueur. Il ne se rendrait pas compte que j'étais en prison à cause d'eux, et si je me plaignais, et si je lui rappelais que je l'avais pourtant bien prévenu, il me reprocherait de ne pas savoir reconnaître mes amis. Il me dirait que je n'avais pas le droit de porter des jugements aussi sévères sur des gens qui, au moment même où je parlais d'eux avec dureté, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me tirer de ce mauvais pas. Que répondre à cela du fond d'une prison ? Le lendemain, je retournais chez mon Danel. J'avais fait toutes sortes de calculs pour savoir s'il lui avait déjà été possible d'agir pour moi. Je m'étais dit qu'en arrivant la veille à son bureau, après notre déjeuner, il n'avait certainement pas songé à s'occuper de mon affaire. Il avait promis de s'en occuper, mais enfin, il n'était pas homme à le faire immédiatement, d'autant plus que ce qu'il projetait était particulièrement délicat. Il fallait attendre des circonstances favorables. Il ne pouvait pas, de but en blanc, aller parler de moi à la police judiciaire. Il était même possible que tout de suite après nous avoir quittés, il n'eût plus pensé à nous. Mais on ne sait jamais. C'est justement quand un service qu'on veut nous rendre peut nous être nuisible qu'on le rend le plus vite. À force de réfléchir, je me dis que le plus sage était de revoir mon Danel avant qu'il eût le temps de faire quelque chose. Une après-midi s'était déjà écoulée, c'était bien assez. J'arrivai chez mon Danel un peu avant 9 heures. Cette démarche m'était profondément désagréable, d'autant plus que je la faisais en cachette de mon père. C'était non à moi, mais à mon père, que mon Danel voulait être agréable. En fait, il ne me connaissait pas. Je sentais qu'à la seule annonce de mon nom, à un moment où il ne s'y attendait pas, et si proche du déjeuner de la veille, sa première pensée serait que j'abusais ou que j'étais un sans-gêne. La femme de chambre me pria d'attendre sans me reconnaître. Comme elle ne revenait pas, je me doutais de la mauvaise impression que faisait ma visite. Elle reparut enfin, et avec une extrême amabilité, me pria d'entrer, me disant pour justifier sa longue absence que son maître faisait sa toilette, qu'elle avait dû attendre elle-même pour lui parler, etc., me donnant une foule de détails que, visiblement, on lui avait dit de me donner. Enfin, mon Danel parut. Il fit semblant d'être heureux de me voir. Il me désigna un siège. Je sentis qu'il voulait me montrer qu'en ce qu'il concernait, rien n'était changé, qu'il était toujours dans les mêmes dispositions que la veille, comme font ceux qui nous ont fait des promesses lorsque nous allons les voir avant qu'ils nous aient fait signe. Je lui dis que j'avais réfléchi, que j'étais très touché qu'il se fût offert de m'aider, mais que je croyais qu'il valait mieux qu'il ne fît rien. Il ne manifesta aucun étonnement. Il me dit « Décidément, vous êtes un enfant. » Je lui exposai mes craintes. Il me répondit que je pouvais avoir entière confiance en lui, qu'il s'était occupé dans sa vie d'affaires autrement graves. Cette parole me fit un bien immense, que je n'avais absolument rien à redouter, qu'il ne fallait pas oublier qu'il était l'ami de mon père depuis 30 ans. Je répondis que sa complaisance me touchait beaucoup, mais que je croyais quand même qu'il valait mieux en ce moment faire le mort. Il s'étonna que je fusse craintif à ce point. Je lui dis, sur le ton d'un aveu, que j'étais ainsi, que j'aimais mieux ne rien savoir, que ce n'était pas précisément de la crainte, mais plutôt de la méfiance. Toujours avec la même gentillesse, mon Danel me demanda si je tenais vraiment à ce qu'il ne fît rien. Je fis un signe de tête affirmatif. Il me dit encore, aussi gentiment, que si je devais changer d'avis, il se remettrait avec la même bonne volonté à ma disposition. Je sentis qu'il ne voulait pas avoir l'air froissé, mais je n'avais pas encore dit le plus difficile. Je voulais lui demander aussi de garder secret tout ce que mon père et moi lui avions raconté. Il se mit à rire. « Mais, mon pauvre petit, est-ce que vous me prenez pour un gamin ?» Je m'excusai. Je lui dis pourtant que c'était très important. N'osant lui redemander de garder le secret, je m'arrangeai pour le faire indirectement. Ce secret devait être ignoré de tous. Mais j'avais beau parler tout le temps de l'importance qu'il y avait pour moi à garder ce secret, mon Danel, malgré son air si sûr de moi, n'avait pas encore prononcé le mot, ni eu le regard ou l'intonation qui m'eussent persuadé que je pouvais compter sur sa discrétion. Comme il me raccompagnait, en parlant bien fort à mon sens en raison des gens qui pouvaient se trouver dans l'appartement, je lui demandai, en quittant cette fois le ton de la conversation, en prenant presque celui d'une imploration, de ne parler à personne de ce qu'il savait. J'espérais qu'il allait me regarder dans les yeux, me serrer la main sans même me répondre, car ce n'était pas une réponse que j'attendais, mais quelque chose d'humain, qui me montra qu'il m'avait compris et qu'il tiendrait parole. Mais de nouveau, il se mit à rire. « Je ne vous répondrai plus, » dit-il, en me frappant l'épaule d'un geste paternel. « Vous ne seriez pas le fils de mon meilleur ami, que je vous dirais que votre insistance me froisse. » Quand je fus dans la rue, j'eus le sentiment de n'avoir jamais été aussi maladroit. Il ne faisait plus aucun doute pour moi qu'après cette visite, mon Danel ne garderait pas mon secret. J'avais fait fausse route. En cherchant à provoquer chez cet homme un mouvement du cœur, je l'avais mis en éveil. C'était un peu tard, mais je m'en rendais compte à présent que j'aurais dû dire simplement, en le quittant sur un ton plein d'assurance, bien entendu, pas un mot de cette histoire. Il m'aurait répondu sur le même ton en me serrant la main « Vous pouvez compter sur moi ». Et en effet, si les choses s'étaient passées ainsi, j'aurais pu compter sur lui.